Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Investir en bourse les meilleurs ETF pour PEA, publié sous le nom AlphaCraft Invest, se présente comme un guide pratique consacré aux fonds indiciels cotés compatibles avec le plan d'épargne en action. Son titre annonce une ambition précise, aider le lecteur à rechercher une exposition boursière performante tout en réduisant les risques évitables par la diversification et par le choix de support adapté au cadre fiscal français. Les informations publiques disponibles ne permettent pas de vérifier un sommaire détaillé, des recommandations nominatives ou une méthode propriétaire attribuable à cet ouvrage. Une analyse rigoureuse doit donc se limiter au thème explicitement porté par son intitulé ETF, PEA, performance, risque et enrichissement raisonné. Le livre semble s'inscrire dans la littérature de vulgarisation financière destinée aux épargnants qui souhaitent remplacer la sélection directe de titres par une construction de portefeuille plus simple. Son objet central est moins de prédire les marchés que de fournir des repères pour comparer des ETF et les intégrer à une stratégie de long terme. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le PEA comme cadre fiscal et réglementaire du choix des ETF. Le PEA constitue le point de départ logique du livre, puisque tous les ETF accessibles sur un compte titre ne peuvent pas nécessairement y être logés. Ce cadre impose de distinguer la qualité financière apparente d'un fonds de son éligibilité effective. Pour un épargnant français, cette vérification est déterminante. Un produit exposé aux actions mondiales ou américaines peut être rendu compatible avec le PEA par sa structure, souvent fondée sur une réplication synthétique, alors même que les sociétés de l'indice ne sont pas européennes. Comprendre ce mécanisme évite de limiter artificiellement la diversification à la seule zone euro. Le PEA ajoute aussi une dimension fiscale à la décision. Son intérêt ne dispense ni de supporter les fluctuations boursières, ni de choisir des supports cohérents, mais il modifie le rendement net potentiel à long terme. Une approche sérieuse doit donc séparer trois questions. Le fonds est-il éligible? Quel indice cherche-t-il à suivre? Et quels frais ou contraintes de courtage entraînaient? Le titre du livre suggère précisément cette articulation entre enveloppe et sélection. Cela le place dans une logique pratique. Le lecteur ne cherche pas simplement un ETF réputé, mais un ETF utilisable dans son PEA et compatible avec son horizon de placement. Cette priorité réglementaire reste plus utile qu'un classement isolé de produits. Deuxièmement, diversifier par indice plutôt que par sélection de titres individuels. La promesse de moins de risques renvoie avant tout à la diversification. Un ETF indiciel détient, directement ou par mécanisme de réplication, une exposition à un ensemble de sociétés plutôt quoi, une entreprise unique. Cette construction diminue le risque spécifique une erreur de gestion, un scandale ou une faillite affectant une société a en principe moins de poids dans un portefeuille largement diversifié. Elle ne supprime toutefois pas le risque de marché. Un ETF mondial peut fortement baisser lors d'une crise car il reste investi en actions. Le raisonnement utile ne consiste donc pas à présenter les ETF comme sans danger, mais à préciser quel risque ils réduisent et lequel ils conservent. Un indice mondial, un indice américain, un indice européen ou un indice de marché émergent ne proposent ni la même répartition géographique ni les mêmes concentrations sectorielles. Un ETF centré sur la technologie, par exemple, peut offrir une forte exposition à un secteur mais ne remplit pas la même fonction de socle diversifié. Le thème des meilleurs ETF doit ainsi être lu comme une question d'allocation. Le lecteur doit examiner la couverture de l'indice, le nombre de sociétés, le poids des principales lignes et les chevauchements entre fonds. Cette perspective privilégie la cohérence globale du portefeuille au détriment de la recherche d'un produit supposément gagnant à lui seul. Troisièmement, comparer les frais, la réplication et le suivi réel de l'indice. La performance recherchée par un investisseur ne se résume pas à la hausse passée d'un indice. Entre l'indice théorique et le rendement réellement obtenu, plusieurs éléments créent des écarts frais annuels, coûts de transaction internes, fiscalité propre au fonds, liquidité et efficacité de la réplication. Dans une démarche orientée long terme, les frais méritent une attention particulière car ils sont prélevés de manière récurrente, y compris lorsque les marchés progressent peu. Un faible écart annuel peut donc devenir significatif au fil des années. La nature de la réplication est également importante dans l'univers PEA. Une réplication physique consiste en principe à détenir les titres de l'indice ou un échantillon représentatif. Une réplication synthétique utilise un contrat d'échange avec une contrepartie afin de délivrer la performance visée. Cette seconde structure peut rendre possible l'exposition à des marchés non européens dans un PEA, mais elle doit être comprise plutôt que jugée automatiquement bonne ou mauvaise. La qualité du suivi, souvent observée par l'écart entre le fonds et son indice, constitue un critère concret complémentaire au niveau affiché des frais. Le titre du livre invite donc à une sélection fondée sur des caractéristiques vérifiables, non sur des slogans commerciaux. Comparer un même indice entre plusieurs émetteurs peut aider à identifier les différences de coûts, de taille de fonds, de politique de distribution et de structure. Quatrièmement, préférer une stratégie durable au pari sur la performance récente. Le mot performance peut conduire à une confusion fréquente. Choisir le fonds ayant le plus monté récemment n'est pas nécessairement une stratégie robuste. Les rendements historiques décrivent une période passée, influencée par la conjoncture, les taux d'intérêt, la valorisation des actions et le poids de certains secteurs. Ils ne garantissent pas les résultats futurs. Dans le cadre annoncé par le livre, la recherche de performance doit donc être rattachée à un horizon suffisamment long et à une exposition choisie à l'avance. Un investisseur peut privilégier un indice large comme fondation, puis décider avec prudence s'il souhaite ajouter une exposition plus ciblée. Cette hiérarchie limite le risque de transformer un portefeuille PEA en succession de thèmes à la mode. La régularité des versements offre une autre réponse pratique à l'incertitude. Investir progressivement réduit le besoin de deviner le meilleur moment pour entrer sur le marché. Cette méthode ne protège pas contre les baisses et ne garantit aucun gain, mais elle rend le processus plus discipliné. Une telle discipline implique aussi de rééquilibrer seulement lorsque la répartition initiale dérive réellement, plutôt que de multiplier les arbitrages émotionnels. Le positionnement du livre, tel que son titre le révèle, paraît ainsi opposer l'enrichissement intelligent à la spéculation rapide. La qualité d'une stratégie se mesure alors par sa capacité à rester applicable pendant les phases de hausse comme pendant les périodes de baisse. En dernier lieu, adapter le portefeuille PEA au profil de risque et aux contraintes pratiques. Il n'existe pas de meilleur ETF universel, car le choix dépend du délai d'investissement, de la capacité à supporter les pertes temporaires, des autres actifs détenus et de la simplicité recherchée. Un lecteur proche d'un besoin de liquidité ne porte pas le même risque qu'une personne investissant pour plusieurs décennies. De même, une exposition très concentrée sur les actions américaines peut convenir à une conviction assumée, mais elle doit être reconnue comme telle et non confondue avec une diversification mondiale complète. Le PEA impose aussi des contraintes opérationnelles montant d'ordre, frais de courtage, disponibilité des fractions de parts selon le courtier et taille minimale de certaines parts. Un ETF très peu coûteux sur le papier peut devenir moins commode si les versements sont modestes ou si les ordres sont onéreux. La politique de capitalisation ou de distribution mérite également examen. Dans une logique de constitution de capital, la capitalisation peut simplifier le réinvestissement. Dans une logique de revenu, une distribution modifie les flux reçus sans changer le risque fondamental du sous-jacent. Le livre semble donc viser une décision structurée plutôt qu'une liste à reproduire mécaniquement. L'application raisonnable de ces thèmes consiste à définir une allocation, vérifier l'adéquation des fonds au PEA, contrôler les frais, puis documenter les raisons de chaque choix. Cette méthode rend le portefeuille plus lisible et facilite son maintien dans le temps. En conclusion, cet ouvrage devrait intéresser en priorité les épargnants français qui disposent ou envisagent d'ouvrir un PEA et souhaitent comprendre comment les ETF peuvent devenir le noyau d'une stratégie action. Il peut être particulièrement utile aux débutants confrontés à une offre abondante de fonds, de codes easing et de classements qui donnent parfois l'impression qu'un unique produit serait objectivement supérieur à tous les autres. Le bénéfice pratique attendu tient à la mise en relation de critères souvent examinés séparément: éligibilité au PEA, indice suivi, diversification, frais, mode de réplication et horizon d'investissement. Cette grille aide à éviter deux erreurs opposées: rester excessivement concentré sur quelques titres connus ou acheter plusieurs ETF redondants sans réelle diversification supplémentaire. Les investisseurs déjà familiers des marchés peuvent aussi y trouver un rappel utile de la différence entre une bonne enveloppe fiscale et une allocation adaptée au risque. Faute de sources publiques permettant de confirmer le détail du contenu, il serait imprudent d'attribuer au livre des sélections précises ou des promesses chiffrées. Son positionnement distinctif ressort néanmoins clairement de son titre. Il ne traite pas des ETF de manière générale, mais les examine à travers les contraintes spécifiques du PEA et la recherche conjointe de rendement et de maîtrise du risque. Par rapport au guide centré sur la spéculation ou sur les palmarès de performance, cette orientation privilégie les critères structurels, la simplicité et la constance. Le lecteur devra compléter cette lecture par la consultation des documents réglementaires des fonds et par une évaluation personnelle de sa situation financière. Si vous souhaitez soutenir AlphaCraft Invest, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.